Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus où que vous soyez dans la planète sur le débat du jour.
RFI.
L'histoire qui semble se répéter, l'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Le vieux continent est victime d'une violente réplique. Arrivée par l'est du continent, la vague épidémiologique déferle vers l'ouest. Les États tentent de colmater la brèche, tant bien que mal, mais les indicateurs s'affolent. Alors pourquoi et comment l'Europe est-elle redevenue épicentre de la pandémie de Covid? C'est le débat du jour.
RFI.
Avec ce soir comme invité Anne Sénéquier, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Merci également à vous. Vous êtes médecin, co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, autrement dit l'IRIS. Jean-Stéphane Dersin, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en modélisation des épidémies, professeur à l'Université Paris-Nord, directeur adjoint scientifique à l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leur interaction auprès du CNRS. Et puis avec nous également Yves Kopiter, bonsoir.
Bonsoir.
Épidémiologiste, cette fois-ci à l'Université Libre de Bruxelles. L'Europe est donc redevenue cet automne 2021 l'épicentre mondial de la pandémie de Covid. La circulation du virus accélère dans presque tous les pays et nous venons juste d'ailleurs de franchir la barre du million et demi de morts en Europe et les perspectives de l'OMS ne sont pas rassurantes. L'OMS qui redoute 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici au printemps. Alors tout d'abord, comprendre cette cinquième vague qui touche le continent européen. Avec vous, Anne Sénéquier, cette résurgence de contamination, est-ce la plus importante que l'Europe ait connue?
Oui, si on parle en temps d'incidence, oui, effectivement, c'est la plus grosse incidence qu'on ait connue, puisque on a aujourd'hui, en semaine, 2,4 millions de cas par semaine, alors que en septembre 2020, qui était l'autre pic, on avait beaucoup moins. Donc en termes de cas, on est vraiment au pic de ce qu'a connu l'Europe. Par contre, en termes de décès, c'est moins évident et pour l'instant, on résiste mieux puisqu'on a un pic des décès qui avait été atteint le 18 janvier 2021. Et ça s'explique aujourd'hui par effectivement l'impact de la vaccination et de son utilité.
Cette résurgence de contamination, Jean-Stéphane Dersin, vous partagez l'avis d'Anne Sénéquier?
Tout à fait, avec quand même une grosse inégalité selon les pays, c'est-à-dire que, par exemple, nous, notre grosse vague du mois de juillet, un certain nombre de pays là, qui sont actuellement très touchés.
Quand vous dites nous, la France,
excusez-moi. Donc, la France a été touchée énormément au mois de juillet avec des progressions de l'épidémie qu'on n'avait jamais vues. À l'inverse, d'autres pays qui sont durement touchés actuellement, par exemple la Belgique hein, ou l'Allemagne, n'avaient pas connu cette vague-là, ce qui pour nous est notre quatrième vague.
Mmh. Yves Kopiters, justement, à Bruxelles, les nouvelles ne sont pas bonnes hein, en provenance de Belgique.
Alors oui, non, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous sommes, nous, vraiment dans notre quatrième vague et c'est une vague de contamination essentiellement puisqu'on a des taux d'incidence qui dépassent 1600 pour 100 000 habitants sur des périodes de 14 jours. Donc on n'a jamais eu des taux d'incidence si élevés avec des taux de positivité très importants, supérieurs à 15%. Et donc une circulation du virus qui est surtout importante chez les 0-20 ans, chez les jeunes. Et heureusement, quand même une dissociation entre les contaminations et les hospitalisations et la mortalité. Et ça, c'est grâce en effet à la vaccination. Donc je dirais qu'il n'y a pas une relation directe entre les contaminations et l'augmentation nécessaire des hospitalisations pour l'instant.
Les uns et les autres, comment expliquez-vous là que cette nouvelle vague de Covid qui frappe l'Europe soit arrivée par l'est du continent, Yves Kopiter?
Alors ça, c'est lié aux stratégies et aux politiques de protection et bien sûr à la stratégie vaccinale essentiellement. Donc on a vu vraiment que cette quatrième vague était partie des pays d'Europe pour lesquels la couverture vaccinale était les plus faibles. Alors, je ne parle pas des types de vaccins à ce niveau-là, mais on voit vraiment que dès que les couvertures vaccinales ne dépassaient pas 30-35%, ça a été vraiment le démarrage de cette quatrième vague ou cinquième vague en fonction des pays. Mais maintenant, la situation n'est plus tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une espèce de ligne entre le Danemark, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, bien sûr, l'Autriche, et puis alors des pays comme la Slovaquie, la Hongrie, et puis étonnamment aussi la Grèce, qui est fortement touchée. Donc on voit vraiment, je dirais, quelque chose qui part du nord de l'Europe et qui traverse l'Europe centrale.
Où en est-on dans cette cinquième vague, Jean-Stéphane Dersin ?
Alors ça dépend des pays, des pays sont en avance. Alors une des raisons pour lesquelles ils étaient en avance, donc ça a été évoqué, c'est la... une vaccination plus faible. Moi, je pense tout de suite à la Roumanie qui a connu une situation absolument catastrophique il y a quelques semaines. Pour d'autres pays, c'est aussi parce qu'il y a eu des décisions politiques de relâchement des gestes barrières, d'ouverture. Là, je pense au Danemark, par exemple, qui avait décidé de revivre la vie d'avant. Et actuellement, ça ne se passe pas très, très bien. Ils ont une incidence de 500 à peu près au Danemark actuellement. Voilà, donc ces choses-là remontent et il y a quand même une certaine inégalité sur le niveau auquel on est dans les différents pays. En revanche, une chose qui est extrêmement importante, c'est la vitesse de propagation, c'est-à-dire le fameux taux de production, le nombre de personnes qu'une personne infectieuse va infecter au cours de la maladie. Où là, on remarque que actuellement en France, on a peur, on a peur de ce qu'on a vu en Allemagne, en Autriche ou en Belgique, et finalement, notre vitesse de propagation actuelle, elle est comparable à celle qu'ils ont connue, eux.
Cette résurgence de Covid, Anne Sénéquier, s'explique principalement par le déficit de vaccination.
Ça n'est pas juste une cause, une conséquence. On voit bien qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui s'accumulent pour créer la situation actuelle. On a effectivement ce gradient de vaccination qui traverse l'Europe parce qu'on a su acheter les vaccins ensemble, mais en termes de capacité de gestion de la campagne de vaccination en elle-même, chaque pays a été à sa propre vitesse. Donc on a déjà ce gradient-là. On a également le relâchement des mesures sanitaires parce que effectivement, pendant la période estivale, on a eu, certains ont eu une vague, mais d'autres l'ont moins ressenti. Donc il y a ce relâchement des mesures sanitaires, depuis la lassitude aussi de la population vis-à-vis de celle-là. Et on a un variant Delta qui, comme on le sait depuis début 2021, est hautement transmissible et va générer ces chaînes de transmission, alors qu'on a une vaccination plutôt correcte sur le continent européen et que les mesures barrières, même si elles ne sont pas optimum, sont présentes. Et le quatrième ingrédient là-dedans, c'est bien sûr l'arrivée de l'automne avec les gens qui vont rester en lieu clos avec une densité de population plus importante et pas encore le réflexe d'aérer régulièrement les pièces puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué l'hiver dernier mais qui s'est fait jour pendant cette année-là. Donc ces quatre raisons aujourd'hui se combinent sur une temporalité différente et avec une prépondérance différente en fonction des pays, mais c'est majoritairement les ingrédients de cette vague qui déferle sur l'Europe cet automne.
Jean-Stéphane Dersin.
Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anne Sénéquier. C'est que pour cette cinquième vague en France, on a différents facteurs qui ont été évoqués. Et ce qu'on peut souligner, c'est que l'évolution de cette vague, elle est quand même très différente des précédentes, des deux dernières que l'on a connues, où au début de l'hiver 2020-2021 était arrivé le variant Alpha, donc le variant britannique d'abord au Royaume-Uni et puis après dans de nombreux pays. Et finalement, l'évolution... À ce moment-là, l'épidémie était relativement stabilisée par les mesures qui avaient été mises en place. Et là, on se retrouvait avec un variant qui était plus transmissible, 1,6 fois plus, et c'est lui qui avait changé la donne. Et pour la vague d'après, où Delta était arrivé, on avait encore cet avantage sélectif avec à nouveau un variant Delta qui était 1,6 fois plus contagieux que le variant Alpha qui précédait. Là, c'est quelque chose qui est différent, c'est-à-dire que la nature du variant, elle, a pas vraiment, enfin la nature, pardon, du virus n'a pas fondamentalement changé. En revanche, Il y a un certain nombre de causes extérieures qui ont été soulignées, que ce soit l'arrivée de l'automne, on se réunit en intérieur, ou que ce soit surtout quelque chose qui est assez majeur, c'est la baisse de l'efficacité vaccinale au cours du temps.
On va y venir. Yves Kopitiar, on parle bien là toujours du même variant Delta pour cette cinquième vague qui frappe l'Europe ?
Oui, on parle bien du même variant, mais ce variant, en fait, on l'a découvert qu'à partir du mois de juillet-août dernier, c'est-à-dire en période estivale. C'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays européens, on n'a pas eu vraiment de rebond à ce moment-là. Et on a vraiment, je pense, sous-estimé, pas vraiment la contagiosité de ce variant Delta, mais le fait qu'en période automnale, comme ça vient d'être dit, c'était beaucoup plus compliqué de s'en protéger. Et puis malheureusement, et ça a été aussi cité, on se rend de plus en plus compte que le vaccin est un excellent outil, mais il a quelques petites failles. Et ces petites failles, c'est qu'il ne protège pas complètement sur des formes symptomatiques du Covid ou sur la contamination. Et c'est cette équation-là que nos politiques publiques et les experts ont sans doute mal évalué.
Anne Sénéquier.
Oui, c'est vrai, on a 1 milliard de doses qui ont été administrées en Europe. On sait, malheureusement, ces 1 milliard de doses n'ont pas été équitablement réparties. Et on n'a finalement que 53% de la population européenne qui ont un schéma vaccinal complet. On rajoute dessus ce qu'on vient d'évoquer avec cette immunité qui décroît au fur et à mesure des mois avec la majorité des campagnes de vaccination dans l'Europe de l'Ouest qui ont commencé au début 2020. Donc on sait qu'avec 6 mois après la deuxième dose, on a une efficacité face aux formes graves de 50%. Donc, il nous reste les personnes qui ne sont pas privo-vaccinées et qui sont encore de manière très importante, 5,7 millions de personnes en France, plus de 20 millions de personnes en Allemagne, ce qui génère finalement un pool de personnes assez nombreux et suffisant pour générer une submersion des services hospitaliers. Et on l'a vu récemment avec un chiffre qui est sorti de l'ARS en France qui évoquait que 2% seulement des hospitalisations en France en 2020 était due à la Covid. Alors, bien sûr, tout le monde s'est insurgé de se dire, mais comment ça, 2%, on a généré un confinement, un arrêt de la vie économique, pédagogique, et on a ramené tout le monde à la maison. Mais ça veut dire surtout que ce service hospitalier fait énormément d'autres choses que la Covid, et c'est nécessaire tous les jours, mais surtout que la résilience que l'on a tant vantée sur le système de santé à l'occidental et que l'on a érigée en bouclier au tout début de l'épidémie n'est pas si importante que ça. Et aujourd'hui, on a besoin de garder ça en tête pour justement prendre la mesure de ces chiffres aujourd'hui qui ne cessent de croître.
Des chiffres qui ne cessent de croître. Jean-Stéphane Dersin, spécialiste en modélisation des épidémies.
Oui, alors on parle de l'érosion de l'efficacité vaccinale depuis tout à l'heure. Je voulais juste donner un chiffre, c'est-à-dire quelqu'un qui se serait fait vacciner le 15 juin, par exemple, donc qui a une efficacité qui a son maximum de résistance au virus aux alentours du 1er juillet. Ben, si on le regarde aujourd'hui, il a plus que 3 fois plus de chances de risque d'être contaminé par une personne infectieuse quand il le rencontre. Ça, c'est le premier point. Je prends l'exemple de la France maintenant. Si on regarde le nombre de personnes dans la population qui circulent en étant infectieux, on a un rapport de 1 à 10. Donc finalement, quelqu'un là, dans la population qui s'est fait vacciner le 15 juin, il a 30 fois plus de chances d'être contaminé qu'il ne l'avait le 1er juillet. Donc on a une évolution du risque de contamination, à la fois parce que vous avez une chute de l'efficacité vaccinale, mais également parce qu'il y a une envolée de cas qui sont peut-être bénins, mais qui sont des gens qui potentiellement peuvent vous infecter dans la population.
Combien de temps risque de durer cette cinquième vague ? Là, je m'adresse aux spécialistes en modélisation des épidémies.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je dirais que l'évolution naturelle d'une épidémie est quelque chose qui se fait assez bien. Et alors, c'est quoi l'évolution naturelle d'une épidémie ? Vous avez une épidémie dans une population. Et puis, vous ne faites rien. Et donc, finalement, l'épidémie, elle s'épuise parce qu'on manque de personnes à infecter. Et là, ce qui se passe... Et normalement, il y a une seule vague. Et puis, donc, si les conditions ne changent pas, après, il y a peut-être des conditions climatiques ou des choses comme ça, mais c'est quand même assez marginal. Là, ce qui se passe, c'est que les différents pics qu'on a connus sont des pics totalement artificiels qui viennent d'une action extérieure, donc des recommandations ou des injonctions, qui font que, artificiellement, vous allez baisser la transmissibilité du virus parce que vous allez supprimer les contacts en confinant les gens, parce que vous allez empêcher le virus de passer d'une personne à une autre parce que vous mettez des masques. Et donc, le pic n'est pas du tout prévisible parce qu'il dépend fortement des mesures qui vont être prises.
Un avis que vous partagez, Yves Kopiter ?
Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que depuis le début de cette épidémie, les modèles épidémiologiques ne montrent jamais vraiment la réalité. Alors c'est bien sûr le but de ces modèles, de ne pas montrer la réalité, parce qu'on prend les bonnes mesures pour empêcher bien sûr des projections qui pourraient être assez pessimistes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour l'instant de modéliser la vague actuelle. En Belgique, on a fait l'exercice avec peut-être des limites, parce que ça dépend vraiment des hypothèses, des modèles, mais on attendait la fin du pic pour maintenant fin novembre, début décembre. Or, la dynamique épidémique est encore très forte.
Anne Sénéquier.
C'est vrai qu'on parle de dépendance vis-à-vis des mesures de restrictions sanitaires, mais en fait, ça dépend, c'est le facteur humain. Et le facteur humain est vraiment le maillon faible des épidémies, puisque tout dépend de lui, effectivement, en pouvant faire obstacle ou pas à l'épidémie. Et c'est vrai que ce facteur humain, il est présent dans l'épidémiologie, dans le pic, à travers ça, mais aussi, on va créer finalement cette force ou au contraire cette faiblesse qui peut être le facteur humain. On voit aujourd'hui finalement à travers l'Europe des manifestations contre le rétablissement des restrictions sanitaires. Et je pense qu'il faut y voir un problème évident de communication depuis le début de cette pandémie, où au tout début, devant notre innocence historique aux pandémies modernes, on avait parlé, on avait répondu sur une temporalité courte, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en France, on avait parlé d'un confinement de 15 jours. On a complètement occulté la possibilité d'une temporalité plus longue, alors qu'à ce moment-là, même le monde médical et scientifique tentait d'alerter l'exécutif sur cette temporalité, mais d'un côté était accusé d'être trop alarmiste. Et finalement, dès le départ, cette temporalité courte dans les efforts à faire, dans les mesures à prendre, a créé cette impatience de la part de la population, et qui finalement aujourd'hui prend toute sa dimension dans ces manifestations que l'on peut voir aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, et qui va générer finalement une incompréhension, et en Guadeloupe bien sûr, une perte de confiance envers les autorités, qu'elles soient sanitaires ou politiques. Et c'est là où on a une grosse problématique.
Nous n'avons pas appris en quelque sorte de nos erreurs, ou en tout cas du passé, pour gérer cette nouvelle crise sanitaire, Yves Kopiter.
Mais disons que dès que la situation va mieux, et on voit ça dans beaucoup de pays européens, ben, on a tendance à relâcher, et c'est tout à fait naturel, entre guillemets, puisqu'on a besoin de contacts sociaux et que toutes ces mesures restrictives sont quand même très pesantes sur l'aspect psychosocial de la vie en société. Et donc on tombe toujours un peu dans ce piège de ce relâchement, et on voit quand même que les pays qui s'en sortent entre guillemets mieux pour l'instant, et la France, je pense, en est un exemple, c'est la continuité des mesures dans le temps. C'est de trouver ce bon équilibre qui peut être contraignant pour la société et pour nous tous, mais qu'on est capable de maintenir dans le temps. Et je pense que ça, c'est la meilleure stratégie pour prévenir les rebonds ou les futures vagues.
Jean-Stéphane Dersin.
Oui, Anne Sénéquier parlait du facteur humain. Le facteur humain est extrêmement important. C'est-à-dire que bien souvent, on dit tel gouvernement a pris telle ou telle mesure et on regarde son efficacité. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous avez des gouvernements qui ont pris des mesures qui sont très légères et une population qui surréagit sur l'application de ces mesures. Donc un exemple, c'est par exemple la Suède. Hein. On a dit que la Suède n'avait pas confiné sa population lors du premier confinement, là, celui de mars 2020. Et en fait, si on regarde l'évolution, si on regarde les chiffres de mobilité de la population qui sont un bon indicateur du confinement, on remarque que les Suédois ont fortement arrêté leur mobilité, alors qu'ils n'y étaient pas du tout obligés. Et cette chute, elle était quasiment comparable à la chute de la mobilité en France lors du deuxième confinement. Et donc, ces choses-là sont extrêmement difficiles à anticiper, parce que la population peut surréagir ou être un bon élève. Hein. On peut aussi citer d'autres exemples, hein, comme le Danemark, hein, où il y a un bon accompagnement, une bonne acceptation des mesures qui sont demandées, et où finalement, leur application est bien plus importante que dans d'autres pays.
Anne Sénéquier.
Oui, on voit que finalement, tout, tout est dépendant de la confiance qu'il y a envers l'exécutif. Et c'est vrai ce qui s'est passé en Suède, où on avait l'exécutif profiter d'une confiance vraiment beaucoup plus importante que l'on peut l'avoir dans les peuples latins envers l'exécutif. Et du coup, il n'y a pas eu besoin finalement d'être dans la contrainte pour arriver à avoir des gestes barrières. Mais je pense que là aussi, on retombe dans la temporalité, parce que tout est une question de référentiel. Au début, quand on a dit on va devoir se confiner pour protéger nos vulnérables, on mettait en face le décès de nos proches et finalement rester à la maison pendant 15 jours. C'était acceptable. Mais cette temporalité courte, finalement, qui s'est répétée encore et encore et encore au cours de cette année 2020 et 2021, aujourd'hui fait que finalement, on n'oppose plus la même chose face à ces mesures. On a les mêmes mesures, parfois qui sont seulement, entre guillemets, des mesures barrières, mais en face, on va y avoir une impossibilité d'avoir une vie relationnelle qui maintient une santé mentale acceptable, une vie professionnelle qui maintient le budget d'une famille. Donc aujourd'hui, ça n'est plus du tout juste une crise sanitaire, et je pense que ça, tout le monde est bien d'accord pour le dire, mais aussi une crise économique, une crise des familles, une crise sanitaire du Covid, mais aussi psychologique. Et la problématique, c'est que du coup, cette temporalité longue qui nous a manqué ne nous a pas préparé aujourd'hui à prendre tous ces facteurs ensemble, qui fait que cette impatience génère aujourd'hui cette lassitude vis-à-vis des mesures barrières. Et puis finalement, cette perte de confiance, se dire, mais ça fait 2 ans que nos gouvernements essayent de nous sortir de là et ils n'y arrivent pas.
Le débat du jour, Adrien Delgrange.
Avec 3 invités, Jean-Stéphane Dersin, Yves Kopiter et Anne Sénéquier, comment l'Europe est-elle redevenue épicentre de la pandémie de Covid ? La 3e dose de vaccin préconisée par certains gouvernements, est-ce la solution, Yves Kopiter ?
Alors en tout cas, c'est la solution du moment. C'est une des solutions du moment. Et je pense qu'il y a vraiment urgence, en fonction bien sûr des stratégies vaccinales de chaque pays, de voir à quel moment chaque pays doit lancer l'accès à cette 3e dose. Il faut rappeler qu'elle est vraiment prioritaire pour celles et ceux qui se sont fait vacciner en démarrage de campagne, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les personnes fragiles, les personnes immunodéprimées, les personnes donc qui ont eu un délai de 5 à 6 mois depuis leur 2e dose. Donc voilà, je pense que c'est une façon en tout cas très importante, quoi, c'est une stratégie très importante pour essayer de réduire les formes graves dans le cadre de cette vague. Mais non, ça n'empêche pas que la sensibilisation à la vaccination en général de la population reste une priorité, puisqu'il y a toujours un pourcentage de la population non vaccinée, je parle bien sûr de la population adulte.
Jean-Stéphane Dersin.
Oui, donc ce qu'on dit là, c'est qu'il faut vacciner en priorité les personnes à risque, âgées ou bien ayant des comorbidités. Mais il faut quand même voir que le fait qu'il y ait un haut niveau de circulation de formes bénignes dans la population n'est pas anodine, parce que ces gens-là, les gens qui sont susceptibles de faire des formes graves, leur vaccination ne les protège pas à 100%, ça on l'a suffisamment répété, c'est un facteur de 1 à 10, donc ça n'est que 10 fois moins. Et le fait qu'il y ait énormément de gens infectés dans la population fait que ces gens-là, finalement, risquent de faire des formes graves parce qu'ils vont croiser plus de gens infectés que ce qu'ils auraient pu le faire si l'épidémie de forme bénigne, je dirais, dans la population avait été maîtrisée.
Mmh. Anne Sénéquier, vous vouliez réagir sur le pari de la 3e dose ?
Oui, cette 3e dose, elle est importante, effectivement, mais il faut se souvenir aussi qu'elle ne diminue pas la transmission et qu'aujourd'hui, dans cette 5e vague en France et cette vague en Europe, on parle surtout d'une épidémie des non-vaccinés. Et aujourd'hui, cette 3e dose est importante, mais il faut qu'elle soit en parallèle et en termes de puissance aussi importante que la primo-vaccination, qui est encore trop importante face à un variant Delta qui est très présent.
Avec des disparités, quelques chiffres, 24% des Bulgares sont vaccinés contre 86% des Portugais. La vaccination des enfants, est-ce aussi la solution ? Aujourd'hui, le régulateur européen a autorisé l'administration aux enfants de 5 à 11 ans du vaccin anti-Covid de Pfizer, Yves Kopiter.
Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas pour. Je pense que c'est un peu trop tôt d'envisager cette vaccination. Je vous rappelle qu'on se base essentiellement sur des données américaines et le profil, je dirais, de morbidité ou de comorbidité des enfants américains n'est pas tout à fait le même que la comorbidité au niveau des enfants européens en général. Et je pense que la balance bénéfice-risque en termes de documentation scientifique n'est pas encore très claire. Donc moi, je pense pas que c'est une stratégie prioritaire du moment. Et je ne mets pas du tout en doute la qualité du vaccin, mais je pense qu'il faut surtout vacciner, comme on l'a dit, les personnes de plus de 50 ans et toute la population qui a besoin de sa troisième dose. Et ça, c'est la priorité.
La vaccination des enfants, Jean-Stéphane Dersin.
Alors sur l'innocuité du vaccin chez les enfants, moi je ne suis pas médecin et je ne suis absolument pas capable de répondre à cette chose-là. En revanche, plus vous allez vacciner de gens dans la population, plus vous allez maîtriser cette vague de cas et donc plus vous allez mettre à l'abri des gens qui ne peuvent pas être vaccinés ou des gens chez qui le vaccin n'a pas bien fonctionné.
N'êtes-vous pas surpris par cette non-cohérence des États entre eux, comme si on n'avait pas forcément appris de nos erreurs? Est-ce qu'une réponse coordonnée, une fois de plus, de l'Union européenne pour tenter de voir la lumière au bout du tunnel ne serait pas opportune, cette réponse, Anne Sénéquier?
La gouvernance sanitaire européenne part de zéro, vraiment. Elle s'est construite, disons qu'elle se construit, je pense, au fur et à mesure de la pandémie. On a bien vu que chacun a lancé ses fermetures de frontières un peu comme il a voulu lors de ce printemps 2020 et que finalement, on apprend au fur et à mesure. Donc, on a su malgré tout faire des précommandes de vaccins ensemble. C'était une grande première. Maintenant, je pense qu'il faut aussi voir les coordinations entre pays frontaliers. Des patients français ont été accueillis en Belgique, en Allemagne l'année dernière. Cette année, aujourd'hui même, nous accueillons des patients allemands sur le sol français. C'est un début. Il y a des prémus et effectivement, c'est peut-être quelque chose, la seule chose peut-être positive qu'il va falloir sortir de cette pandémie au niveau européen, c'est cette construction d'une gouvernance sanitaire européenne.
Y compris à l'égard des enfants pour les vacciner?
Alors là, je pense qu'effectivement, outre la question de l'innocuité qu'il va falloir effectivement confirmer au niveau européen, après, il me semble que justement, l'Europe a donné son aval pour la vaccination des 5-11 ans, il y a moins de 2 jours. Maintenant, à chaque pays, encore une fois, de faire son choix. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on va tomber dans la souveraineté sanitaire et il va falloir la construire en pensant une souveraineté sanitaire européenne et non nationale qui serait le grand piège qui pourrait résulter de la suite de cette pandémie.
Yves Kopiter, vu de Belgique, est-ce que les pays aux mesures les plus protectrices, peut-être comme la Belgique ou la France, peuvent espérer une vague moins forte?
Alors malheureusement pas en Belgique, puisque notre situation épidémiologique est quand même beaucoup plus forte ou grave qu'en France. Et dès demain, malheureusement, il y a des mesures de restriction plus fortes qui vont être décidées en Belgique. Alors je ne sais pas très bien jusqu'où ils vont aller dans des retours en arrière vers des confinements sectoriels ou même carrément des reconfinements partiels de la population, mais malheureusement, ce sont les mesures qui sont envisagées au niveau politique déjà chez nous. Donc on voit vraiment qu'il y a un vent de panique au niveau des décideurs politiques. Ils ont l'impression que les outils qui sont mis en place ne sont pas suffisamment efficaces. Et donc, ils veulent prendre des principes de précaution forts. Et je pense aussi qu'ils veulent, entre guillemets, essayer de sauver les congés de fin d'année.
Votre avis sur l'obligation vaccinale, comme le préconise l'Autriche en février prochain?
Alors, l'obligation vaccinale est, à mon avis, une mesure compliquée pour l'instant. D'abord, c'est pas cette mesure-là qui va nous permettre de sortir de la vague actuelle. Donc si on envisage ce type de mesure, c'est pour potentiellement la gestion de la suite de l'épidémie. Il y a un débat en Belgique qui est de dire, mais peut-être l'obligation vaccinale outre chez les soignants, ce qui ne sera appliqué qu'en 2022 chez nous, pourquoi ne pas envisager l'obligation vaccinale chez les seniors, au moins pour qu'on ait une couverture complète chez les seniors. Et les seniors, ça peut être les plus de 65 ans et on peut éventuellement discuter de l'âge. Donc on voit que ce débat futur sur l'obligation vaccinale va être, je dirais, très important au niveau politique dans les semaines et les mois qui viennent.
Merci à tous les trois pour cette discussion croisée. Yves Kopiters, Anne Sénéquier, Jean-Stéphane Dersin. C'est la fin de ce débat. Réalisation Laurent Philippot, coordination Arnold Assewa, documentation Simon Carteret. Rédaction en chef, Patrick Adam. À suivre dans quelques secondes sur RFI, un nouveau journal.
Ici l'Europe.